On est là pour écouter Florence Janicatrice, qui fait partie de ces chercheuses en économie. Elle est professeure, vous le savez, d'économie à l'Université de Lille. Elle fait partie de ces chercheuses qui donnent beaucoup pour le travail collectif. Le fait qu'elle rejoigne le Collège d'études mondiales ne me surprend pas du tout. Voilà, elle travaille beaucoup pour les autres et dans le peu de temps qui lui reste, elle travaille pour elle. Heureusement pour nous, de temps en temps, elle arrive quand même à nous donner des choses, à sortir un livre. L'indice des prix à la consommation, si vous êtes là, c'est peut-être que vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le faire parce que, bien évidemment, pour nous, journalistes, c'est du pain béni. Hein, ces chercheurs qui viennent, qui nous expliquent clairement que derrière les trucs techniques auxquels le grand public et nous, journalistes, on ne comprend rien, il y a des vrais débats politiques. Et bien sûr, c'est ça qui nous intéresse, nous journalistes. Et c'est pour ça que j'ai accepté sans problème de venir animer cette petite matinée. On va réfléchir. Florence Janicatrice va faire une petite présentation, présentation conséquente, en gros une demi-heure pour expliquer vraiment ce qui est important à retenir de son travail. Et puis, on a quatre personnes de qualité pour venir commenter ce travail. Je vous les présenterai au fur et à mesure. Donc, je vais laisser la parole à Florence pour une demi-heure à peu près.
Tu me donnes ça ou alors je prends ça. Si ça. Non, j'arriverai pas. Bon, merci pour ces propos liminaires et de Dominique et de Christian, et merci à vous tous et toutes d'être présents, que ce soit derrière la table ou en face. Je remercie d'abord vraiment la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et le Collège d'études mondiales de m'avoir suggéré à la proposition de Dominique de rejoindre la chaire écologie, travail, emploi. J'ai accepté après hésitation pour éviter justement d'être trop cumularde. Et puis en même temps, je me suis dit que c'était quand même drôlement intéressant et stimulant de continuer de travailler avec Dominique Méda. Et donc je l'ai accepté bien volontiers. Et puis surtout remercier de pouvoir parler de ce travail qui m'a animé quelque temps, que j'ai réalisé à la faveur au départ quand même d'une petite délégation CNRS que j'ai eue il y a 2-3 ans et qui n'est pas un travail pour me faire plaisir en fait, qui est un travail finalement que j'ai réalisé à un moment où je me suis dit si un livre comme ça avait été rédigé, je l'aurais bien volontiers lu. Et donc j'ai écrit l'ouvrage peut-être qui manquait dans l'espace, peut-être que tout était déjà dit, peut-être que ça semble pour certains totalement évident ce que je vais dire, mais peut-être pas totalement pour d'autres. Alors, pour commencer tout de suite, je vais mettre mon chronomètre, pour commencer tout de suite, je voudrais dire c'est quoi l'origine de ce projet, parce que certains ont suggéré qu'il y avait un petit peu d'éclectisme dans mes travaux, et je voudrais essayer de vous convaincre, peut-être un peu trop rapidement, qu'en fait, c'est pas du tout le cas, et que ça prolonge en fait des travaux qui, comme le disait Dominique Méda, ont débuté dans la coopération avec elle autour des années 2000 à la faveur d'un travail que j'avais réalisé avec Jean Gadret autour des nouveaux indicateurs de richesse et qui déjà suggère quelques limites à cet indicateur du PIB et surtout de la croissance économique qui ont été des indicateurs élaborés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, répondant à des projets politiques bien particuliers qui étaient ceux de la reconstruction sur une base industrielle et sur une base marchande de nos économies. Et puis, un deuxième ouvrage écrit, commis avec Dominique Méda cette fois, presque 10 ans plus tard, « Faut-il attendre la croissance ?», dans lequel on tente aussi de réfléchir à ce que pourrait être un régime post-croissance. Dans les deux cas, dans ces deux ouvrages, on s'intéresse quand même à la manière par laquelle on calcule, au sens arithmétique du terme aussi, qu'on calcule la croissance économique, qu'on appelle chez les économistes le petit g. Et en fait, on a deux manières d'analyser ces indicateurs macroéconomiques. On peut en faire des analyses externes. C'est ce qu'on a fait dans nos deux ouvrages, me semble-t-il. C'est-à-dire, je vais le dire très vite parce que ce n'est pas l'objet, mais en gros, la croissance économique ne dit rien des stocks, finalement, que nous sommes en train sans doute d'épuiser et donc ne dit rien des irréversibilités, qu'elles soient sociales ou écologiques. Mais de mon point de vue, ça, c'est une critique quand même externe parce qu'on peut aussi considérer que le PIB et la croissance économique n'ont pas au départ été prévus pour cela, n'avaient pas ça pour finalité. C'est bien dans les usages que l'on a autour de la croissance que l'on peut émettre ce type de jugement. En revanche, il manquait encore, même si Jean Gadret avait été lui aussi déjà précurseur sur ces questions, une analyse que je pourrais appeler plus interne, qui essaye de réfléchir à la manière plus précisément par laquelle on calcule cette croissance économique. Alors, évidemment, les comptables nationaux le font très bien, on a des tas de travaux magnifiques qui nous rappellent comment est calculée la croissance, mais je vais peut-être vous rappeler quelque chose, ça fera le lien avec l'inflation. Vous rappelez, c'est une jolie formule que vous n'êtes pas obligé de regarder, que pour mesurer la croissance économique, il nous faut travailler non seulement sur la variation du PIB, évidemment, mais la variation du PIB en volume. On essaye de capter des volumes de production, ce qui, dans une économie très industrielle, va assez bien, parce que des volumes un peu qui renvoient à l'idée de quantité physique industrielle, on voit bien ce que c'est. Dans des activités plus de services, c'est un peu plus compliqué, j'y reviendrai. Et pour passer du volume, de la valeur au volume, eh bien, il faut justement déflater par quelque chose qu'on appelle le déflateur du PIB. Alors évidemment, l'inflation, ce n'est pas le déflateur du PIB. C'est une partie de ce déflateur du PIB, en particulier la partie qui concerne la consommation. Et dans le PIB, la consommation, c'est entre 60 et 70%. Donc disons que quand je m'intéresse à l'inflation, je ne dis pas tout du déflateur du PIB, donc je ne dis pas tout en creux de la croissance économique, mais on commence quand même à avoir une bonne idée de ce qui se passe sur la croissance économique quand on s'intéresse justement à l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation étant la manière par laquelle la statistique mesure l'inflation. Et donc, c'est pour ça que j'ai commis cet ouvrage. Alors, si on regardait donc de plus près comment l'inflation est mesurée, ça nous donnerait donc en creux cette estimation de la manière par laquelle la croissance économique est évaluée. C'est donc ce que j'ai entrepris de faire au sérieux. Et j'ai entrepris de le faire en prenant au sérieux deux résultats de la sociologie de la quantification, très cher à Alain Desrosières, qui est un peu transverse à l'ensemble du bouquin. Et j'espère que pour ceux qui l'ont lu, ils voient à quel point il transpire dans mes travaux. La première, c'est que, de mon point de vue, les prix sont un dispositif cognitif collectif absolument décisif des économies de marché, des économies monétaires de production, c'est-à-dire celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, pour négocier des salaires, pour avoir des repères sur l'évolution du pouvoir d'achat. Il nous faut impérativement un indicateur qui soit ce repère cognitif collectif, et connaître de l'intérieur ce repère n'est pas du coup une chose qui me semble tout à fait secondaire. En gros, pour le dire rapidement, mais encore une fois, je vous renverrai souvent à l'ouvrage, l'inflation, donc, c'est mesuré par l'évolution des prix. Mais l'évolution des prix de quoi ? Ben, d'un panier de biens et services qui est représentatif de l'ensemble de la consommation des ménages. On met dans ce panier tout ce que les ménages consomment. Ça va du loyer lorsqu'ils sont locataires, à la consommation d'essence ou de produits agricoles, évidemment. J'imagine qu'Aurélie en parlera tout à l'heure, mais aussi d'un certain nombre de services. Et on pourrait dire, s'il fallait être un peu savant, que l'indice des prix de l'INSEE est construit comme on appelle ça un LASPER, c'est du nom de son auteur, c'est une moyenne arithmétique en gros de tous les produits et biens et services qui sont consommés, et puis on utilise une pondération pour cette moyenne arithmétique, et cette pondération, c'est les coefficients budgétaires, c'est-à-dire la part que l'on consomme de chacun de ces produits, pour faire vite. Mais évidemment, le plus important est ailleurs. Parce que observer, comprendre et... Pardon. Le plus important est ailleurs, disais-je, il va falloir que je prenne mes notes dans le bon sens, parce que la référence à des formules statistiques ne prend pas du tout en compte l'ensemble des conventions qui président à la construction de cette IPC, indice des prix à la consommation, et de son évolution. Parce qu'une formule mathématique, une formule statistique, aussi savante soit-elle, elle est toujours marquée d'incomplétude. C'est Bénédicte Reynaud, qui est elle aussi une conventionnaliste, qui nous le rappelle dans ses travaux. Il faut donc y regarder de plus près. Et ce que je montre dans l'ouvrage, c'est que l'élaboration, ça constitue aussi un petit peu mon cadre analytique, l'élaboration des prix et son évolution, en tout cas par la statistique publique, sont le fruit de trois dynamiques de mon point de vue. La première des dynamiques, c'est une politique de la statistique, mais dans son sens le plus noble, c'est-à-dire quels moyens sont consacrés. Qui en a la charge? Est-ce que c'est le service public? Est-ce que ce sont des agences marketing? Est-ce que c'est du big data? Et cette statistique publique, aujourd'hui, elle développe de très très gros moyens qui sont déployés par l'INSEE pour sa collecte. 400 000 prix collectés chaque mois. 400 000 prix collectés chaque mois. C'est donc un travail social absolument dense et important. Deuxième dynamique, c'est celle du régime d'idées. Pour comprendre l'évolution de la manière par laquelle on a capté les prix au fur et à mesure du temps, il va de soi qu'il faut tenir compte des rapports de force intellectuelle, de la domination de certains courants de pensée qui ne sont pas sans effet sur déjà les profils des statisticiens. Je me souviens d'une personne que j'ai interrogée dans le cadre de ma recherche qui disait oh, bah, dans les années 70, il y avait sans doute 150 marxistes à l'INSEE et aujourd'hui, s'il reste un keynésien, c'est tout le bout. Et puis évidemment, aussi des profils des politiques et partant des choix méthodologiques qui peuvent être faits sans doute parfois au détriment d'autres. Donc j'ai dit trois dynamiques, la politique de la statistique, la dynamique du régime des idées qui évidemment évolue dans le temps, et l'INSEE n'est pas indépendant de cela, et troisièmement un régime de production et de consommation, là on rentre dans le vif du sujet du capitalisme contemporain, c'est-à-dire rendre compte de l'évolution des prix dans un environnement de production qui est par exemple standardisé, celui qu'on a connu dans les années 45 aux années 70, ben, ce n'est pas du tout le même défi que d'en rendre compte dans une économie qui singularise les productions, qui singularise les consommations et les pratiques de prix, je vais y revenir. Pardon, mes pages, ce n'est pas top, mais ça va venir. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer d'observer, autant que faire se peut, on pourra y revenir sur la méthode de travail, et comprendre un peu la collecte des prix, et surtout, le nécessaire et l'inévitable travail d'interprétation, et c'est ça le mot-clé sans doute, de l'évolution du prix de ce panier, c'est-à-dire la mesure de l'IPC, et qui, en fait, cette interprétation est une opération absolument complexe pour une grande diversité de raisons. Alors, quelles sont ces raisons? Si j'en reste à ma troisième dynamique, qui est celle du régime de production et de consommation, ces raisons tiennent aujourd'hui, dans le capitalisme très contemporain, à la multiplication des produits, à leur singularisation. Le propre de l'économie moderne, c'est vraiment de recréer des espaces de monopole qui passent par une individualisation des produits, et du coup, ça permet évidemment d'éviter des formes de concurrence. Ces raisons, elles tiennent aussi au changement permanent dans les produits qui se traduisent par des modifications dans le format, dans le contenu, dans les fonctionnalités, dans le packaging de l'ensemble des produits qui sont mis à disposition des consommateurs. Évidemment, ces raisons tiennent à une question absolument majeure sur laquelle je vais revenir, c'est celle de la variation de la qualité. La variation de la qualité est intrinsèque à nos sociétés, notamment d'économies qui sont fondées sur la singularité, comme dirait Lucien Carpic, et ou sur l'économie de la qualité. Alors évidemment, tout ça est vraiment très... Il y a un gros défi de tout cela, j'avais écrit challenger, c'est pas très joli. Il y a un défi de tout cela dans le capitalisme contemporain, parce que le capitalisme contemporain, c'est plus du tout un capitalisme dans lequel, en tout cas dans nos sociétés occidentales, on produirait de plus en plus de biens. Non, au contraire, on produit de moins en moins de biens, mais de plus en plus d'activités de services qui sont précisément toujours marquées par des formes de singularité. On consomme de moins en moins de biens, mais ce à quoi on est occupé vise à consommer de l'information, à consommer du soin, de l'éducation, etc. etc. Et du coup, évidemment, il y a des caractéristiques assez propres à ces services. Deuxièmement, un capitalisme déstandardisé, comme je l'ai dit, et dans lequel finalement la flexibilité des prix devient un enjeu absolument déterminant et majeur de ce capitalisme contemporain. Je vais donner un terme que vous ignorez peut-être, mais ce qu'on appelle le yield management ou le yield pricing. Ça consiste à essayer de coller au plus près, en s'inspirant de la théorie d'ailleurs du consommateur, de s'inspirer au plus près de ce qu'on appelle le consentement à payer du consommateur, et c'est comme ça que vous voyez des variations de prix qui peuvent parfois être jusqu'à infrajournalières ou qui peuvent dépendre de l'IP de votre ordinateur et qui évidemment constituent un enjeu absolument redoutable pour des sociétés, enfin pour des instituts qui essayent de mesurer des prix qui étaient au départ considérés comme des prix ayant une qualité relativement standard et de prix aussi standard mensuellement. Donc la qualité devient un enjeu majeur des sociétés avec tout ce que cette notion de qualité comporte de normatif et évidemment et inévitablement d'intersubjectif. Hein. Donc je pense que là-dessus, on devrait pouvoir être d'accord, même si l'INSEE prend frontalement la question de la qualité, mais essaye d'évacuer comme la notion de qualité qui est toujours gênant quand on essaye de construire des indicateurs qui essayent de se durcir et de devenir des indicateurs très objectifs. Donc je vais un petit focus sur la qualité en vous disant que le principe de la mesure de l'inflation, c'est justement d'essayer de se limiter à capter statistiquement ce qui serait l'évolution du prix pur ou de quelque chose qui serait de l'ordre d'un prix pur. d'un bien ou d'un service pour que ne subsiste plus qu'une sorte de rapport quantitatif du bien dans le temps, en ayant supprimé, j'appelle ça dans mon ouvrage, j'appelle ça un peu une décote, en ayant supprimé toutes les différences qui pourraient être qualitatives. Alors, par exemple, l'une des méthodes qui a été popularisée par un Américain qui s'appelle Grillitch dans les années 60 pour essayer de capter cette question de la qualité, c'est la méthode hédonique. Et la méthode hédonique, en fait, c'est une méthode économétrique qui essaye simplement de se dire, voilà, un bien, lorsqu'il évolue dans le temps, il peut être enrichi en caractéristiques qui seraient des caractéristiques liées à sa qualité. Et donc, il faudrait essayer de raisonner toutes choses égales par ailleurs par rapport à ces variations de qualité pour ne plus obtenir, lorsqu'on mesure ce prix et son évolution, que le prix qu'on appellerait pur, épuré, on pourrait dire épuré de ces variations de la qualité. Alors, si les travaux ont été très popularisés par Grillitch, en fait, il s'inspire directement d'un économiste qui s'appelle Andrew Court et qui a travaillé là-dessus dans les années 30. Et ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé autour de cet auteur, Andrew Court, c'est qu'en fait, c'était un économiste de l'industrie automobile, Andrew Court. Et il a essayé, ce qu'il voulait montrer, à la demande d'ailleurs des industriels de l'automobile américaine, ce qu'il voulait montrer, c'est qu'en quantifiant l'évolution de la qualité, ça permettrait de suggérer aux politiques notamment que le prix effectivement subi par le consommateur serait moins élevé que le prix affiché, du fait de la variation de la qualité. Et son intention à l'époque, puisqu'il était là pour les industriels, c'était de défendre auprès des autorités publiques le fait que l'industrie de l'automobile américaine pouvait être libérée des contraintes et des charges qui pesaient sur elle à l'époque, parce que en fait, il produisait à un certain prix et à une certaine qualité pour le bien-être des consommateurs, d'où l'idée aussi d'hédonisme. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, la question de la qualité, son émergence, y compris dans les mesures, elle a toujours eu un certain nombre d'intentions, même si aujourd'hui, les intentions ne sont plus les mêmes. La neutralisation des effets qualité a donc fait son chemin et elle fait l'objet permanente, inévitable, par différentes méthodes que j'évoque dans mon livre, d'interprétation sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, sur ce qui est désirable et sur ce qu'est le progrès. C'est évidemment là tout l'enjeu de ce que j'essaie de mettre en avant. Alors ça peut être des sujets aussi anodins que lorsque une sauce tomate est enrichie en viande. Est-ce que c'est un enrichissement de qualité ou est-ce que c'est une augmentation du prix pur? Eh bien, même là-dessus, nous pourrions avoir une très très longue discussion pour savoir, dans son interprétation, si c'est une augmentation de la qualité ou pas. Parce que dans le même temps où on a enrichi cette sauce tomate en viande, peut-être aussi, mais ça le producteur ne le dira peut-être pas, les tomates qu'il a introduites dans son process sont des tomates qui sont de moins bonne qualité. Et évidemment, du coup, il y a un enjeu là-dessus. Deuxièmement, lorsqu'il y a obsolescence programmée. Qui énonce cette obsolescence programmée? Qui énonce l'idée de durabilité des biens en tant qu'élément de la qualité ou de la détérioration de la qualité? Et donc, ça a une incidence directe sur la manière par laquelle, évidemment, on va tenir compte ou pas à la fois de la qualité, mais du coup, de la variation du prix dit pur et donc de l'IPC et donc de l'inflation et donc de la croissance économique. Troisième exemple, lorsque l'on essaye de capter des prix, par exemple, par des méthodes hédoniques sur le logement, où s'arrête-t-on sur le type de critères que l'on tient, dont on tient compte pour énoncer la qualité de ce logement? Évidemment, le logement dans son intimité ou à l'intérieur du logement, mais l'environnement du logement. S'il y a par exemple un accès au métro, faut-il en tenir compte? S'il y a un accès à une forêt, à des aménités positives, comme disaient les économistes, faut-il en tenir compte? Et si du coup, la pollution générale s'est dégradée sur les 30 dernières années, faut-il en tenir compte lorsque l'on essaie de capter l'évolution du prix du loyer? Voilà, autant de questions qui, pour certaines, évidemment, restent sans suspens. J'essaye de dire comment l'INSEE se comporte là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que dire ce qui est bien, par exemple, la qualité de vie progresse, dire ce qui est bon, est-ce qu'il faut des tomates toute l'année, dire ce qui est désirable, est-ce que plus de fonctionnalités numériques est toujours bien du point de vue de la qualité, sont des questions qui sont les produits d'un jugement de circonstances qu'il faut, à mon avis, toujours soumettre sans cesse à un examen critique pour parler comme Kidiou, un philosophe. Et c'est peut-être aussi ça, de mon point de vue, une définition du politique, dire ce qui est bon, ce qui est bien. Au total, et c'est le deuxième résultat que j'emprunte à la sociologie de la quantification, la mesure mesure de l'inflation est inévitablement une fiction statistique, mais elle est progressivement consolidée au fur et à mesure du temps par les institutions, par les pratiques sociales, par des dispositifs sociotechniques, par des représentations justement de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qu'est le progrès, et qui viennent durcir cet indicateur. Et du coup, cet indicateur, mais comme tous les autres, comme le PIB, comme la dette, comme le chômage, sont des données qui finissent par devenir données exogènes pour celles et ceux qui les pratiquent, qui les manipulent. Et donc, tout l'objet de mon ouvrage, c'est d'essayer de dénaturaliser cet indicateur, non pas pour jeter ça à la vindicte populaire, mais plutôt pour prendre au sérieux le travail social, pour étudier l'évolution des rapports des forces, pour étudier leurs effets, et pour accepter ce manque de modestie de ma part juste sur ce point-là, pour essayer de mettre cette pierre dans le débat public, parce que de mon point de vue, c'est une question de démocratie aussi lorsqu'il s'agit d'énoncer le bon, le bien, le désirable et le progrès. Alors, quels sont les résultats de ce que j'ai produit ? Eh bien, il me reste 12 minutes, donc je vais peut-être aller assez vite, mais bon, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais envie de dénoncer, le reste est dans l'ouvrage. D'abord, dire qu'on a vraiment un basculement d'une convention originelle de l'indice des prix à la consommation dont l'histoire dit qu'il est né dans les années 1910, donc le début du siècle dernier, à une convention qui est encore instable aujourd'hui, me semble-t-il, ou en tout cas dont la stabilité est réouverte. En 1913, il s'agissait d'un panier de 13 biens composés de pain, de pommes de terre, de viande de boucherie, de légumes secs, de porc, de sucre, de beurre, d'œufs, de lait, de fromage, d'huile comestible, de pétrole et d'alcool à brûler. Voilà de quoi était composé le panier des 13 biens en 1913, dont il s'agissait d'étudier l'évolution dans le temps. Et en 1913, il s'agissait aussi de regarder comment évoluait le prix de ce panier, mais il fallait être représentatif d'un ménage ouvrier de la région parisienne. Donc il ne s'agissait pas à l'époque d'être représentatif d'un consommateur qui serait moyen. Troisième élément, on retient dès 1913 plutôt une moyenne arithmétique, c'est-à-dire on prend en compte une mesure de l'indice des prix qui est un panier fixe de biens, celui dont je vous ai énoncé les 13 biens, dont le prix moyen est suivi dans le temps. La notion de panier fixe de biens est très importante, en tout cas originellement. Alors, quelle a été l'évolution entre 1913 et 2017 ? Bah, aujourd'hui, ce ne sont plus 13 biens, mais 1100 variétés qui correspondent à 400 000 collectes mensuelles, dont la moitié sont des collectes sur le terrain, dans les grandes surfaces, dans les magasins, etc. Et l'autre moitié sont ce qu'on appelle plutôt des prix tarifs, mais j'y reviendrai si vous me posez des questions, et qui couvrent 98% des biens et des services de consommation d'aujourd'hui. Deuxième élément intéressant, c'est qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'être représentatif d'un ouvrier, mais du ménage français moyen. Et l'INSEE n'a eu de cesse de prendre l'idée d'un ménage moyen comme horizon un petit peu de la perfection de l'indicateur, avec inévitablement en toile de fond l'idée, qui était promue évidemment dans les années 70, que l'horizon serait celui de l'égalité des citoyens, et que la classe moyenne serait extrêmement représentative de la population. Dans une société où les inégalités s'accroissent, eh bien, dès lors qu'on travaille sur un indicateur qui est une moyenne, eh bien évidemment, sans doute les ménages, les citoyens s'y reconnaissent de moins en moins. Et puis, troisième élément, il y a, évidemment, c'est toujours un indice de type l'aspérien, mais quand on regarde de plus près, ça fait un peu technique, mais il y a de plus en plus de dérogations parce qu'il y a des produits sur lesquels on ne peut pas vraiment travailler sur une moyenne arithmétique. Il y a des modifications aussi qui tirent un peu l'indice vers un indice qu'on appelle un indice à utilité constante, un indice que j'appelle utilitariste du coût de la vie, que va sans doute aider l'aide du Big Data, qui est une réforme en cours à l'INSEE et qui devrait être opérationnelle en 2020. Cette année, ils en sont à une sorte de test en grandeur nature. On pourra en parler aux personnes de l'INSEE qui sont là s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est la première grande chose. C'est vraiment cette grande transformation, on pourrait l'appeler comme ça, grande transformation de la manière par laquelle l'indice des prix est construit dans le temps, avec des réformes méthodologiques parfois assez drastiques et qui sont pour certaines liées au régime des idées, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certaines liées au régime de consommation, de production qui a bougé, et puis pour certaines qui sont liées aussi à l'évolution un peu inhérente à ce type de production statistique. Deuxième élément central qui est un petit peu mis en accroche de l'affiche de la présentation, c'est qu'en fait, quand on regarde l'histoire de l'indice des prix à la consommation dans le temps, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point il a toujours fait l'objet d'un certain nombre de disputes ou de controverses, qui sont des controverses plus ou moins feutrées, plus ou moins explosives, évidemment, selon les périodes, selon le temps, et qui ont souvent engagé trois grandes catégories d'acteurs. L'État d'un côté, ou gouvernement. Deuxième acteur, évidemment, l'INSEE, en tant que producteur central et service public de la production statistique. Et puis, un troisième acteur qui ont été pendant très longtemps les syndicats. Je devrais peut-être ajouter aujourd'hui un quatrième acteur qui serait peut-être les économistes alternatifs, avec toutes les facettes que peut contenir l'idée d'alternatif. Voilà. Et donc, dans mon travail, j'identifie cinq controverses, certaines très rudes, certaines plus feutrées, il faut le reconnaître. La première, entre État et syndicats, sur laquelle je ne vais pas revenir, entre 1945 et 1955, mais vous lirez dans l'ouvrage. Une deuxième, une exacerbation de conflits qui a donné lieu à la production alternative d'un indicateur alternatif par la CGT dans les années 70, un indicateur vraiment des prix, un indicateur alternatif des prix, comme on peut avoir des nouveaux indicateurs de PIB, qui a été produit et qui a été opérationnel entre les années 72 et le milieu des années 90, je vais revenir quelques instants tout à l'heure. Les années post-Boskin, du nom Boskin d'un rapporteur qui a fait grand bruit à l'époque, en tout cas aux États-Unis, et qui a identifié un certain nombre de ce qu'il appelait des apories de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Je vais revenir un petit peu parce qu'il me semble que la manière par laquelle l'INSEE s'est emparé de la question du rapport Boskin aujourd'hui dit quelque chose de ce qui est en train, à l'époque, dit quelque chose de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le passage à l'euro, qui a été un moment incroyable de fébrilité à la fois de la statistiques publiques, mais aussi de doutes sévères d'un certain nombre de ménages vis-à-vis de la monnaie, donc de la mesure de l'inflation. Et puis peut-être, mais il y a un point d'interrogation sur la dernière controverse qui pourrait émerger ou pas à la faveur de ce que j'appelle le Big Bang des données de caisse, qui est aussi l'apogée de la mise en place du Big Data qui viendrait remplacer la collecte des prix qui est donc ce travail social que j'évoquais rapidement. Alors, ce que ces moments révèlent, de manière générique, des choses qui, pour moi, sont vraiment importantes. La première, bon, évidemment, une chose très simple, c'est que la statistique, dans son sens étymologique, ça veut dire qu'il est relatif aux États et elle est consubstantielle des États et elle vise quand même souvent la mise en ordre de la société. J'emprunte ça aux travaux, par exemple, de Benjamin Lemoine sur la dette, qu'il a montré avec beaucoup de virtuosité, mais aussi aux travaux de Boris Samuel, qui a travaillé là-dessus sur la statistique dans les pays africains. Deuxième élément, la production statistique macroéconomique, quelle qu'elle soit, elle est toujours le théâtre de conflits qui peuvent parfois être ouverts, parfois plus feutrés, mais quand même, elle nécessite d'une certaine manière de la construction permanente de compromis du fait de l'interprétation inhérente à l'élaboration de l'indice des prix à la consommation, mais comme de la production et comme d'autres indicateurs macroéconomiques. Et du coup, c'est quand même assez intéressant d'essayer de comprendre comment ces conflits sont construits. Troisième point que j'étais loin d'avoir saisi avant de mener mon travail, c'est que vraiment l'indice des prix à la consommation, bien qu'il n'y ait plus d'inflation aujourd'hui ou quasiment plus, on est souvent sous la barre des 2% et ici on est plus proche des 1,4, 1,5 que des 2, reste un objet phare, reste observé comme le lait sur le feu par une myriade de catégories d'acteurs. Et il apparaît quand même qu'il est un des dispositifs majeurs de la crédibilité de l'Institut qui le porte, de l'Institut de la statistique. C'est là une des raisons pour lesquelles on peut comprendre une sorte de fébrilité dès qu'il y a un peu de critique ou d'interrogation ou de réflexivité à l'égard de la mesure de l'indice des prix. Et dernier point qui est le plus important, c'est que dans le résultat de ces controverses, ce que vraiment j'ai identifié, c'est qu'il y a deux logiques à l'œuvre. L'une redistributive et l'autre de représentation des richesses, et qu'il faut vraiment prendre ces deux questions à bras le corps pour comprendre l'ensemble de ces controverses. Alors, la logique redistributive, qu'est-ce que j'entends par la logique redistributive ? Ben, c'est l'idée tout simplement que l'indice des prix à la consommation, toute l'histoire le montre, depuis les disputes de 45 jusqu'à l'exacerbation des conflits avec la CGT, dès lors que l'indice des prix à la consommation sert de repère cognitif ou de repère mécanique d'indexation, hein, comme ça a été le cas, par exemple, des retraites jusqu'à juillet dernier, eh bien, s'il y a une estimation plus élevée de l'inflation, par un simple fait de méthodologique, hein, je parle bien d'un effet méthodologique, il va y avoir un effet redistributif, mécanique. Si au lieu d'énoncer 2% d'inflation, on énonce 3% d'inflation, eh bien, il va y avoir un effet redistributif inhérent à l'indexation des prix, qu'elle soit une indexation directe ou indirecte. Hein. Parce que même si elle est indirecte, on sait bien que l'indice des prix reste un repère dans les négociations pour celles et ceux qui n'ont pas d'indexation directe de leur salaire, et du coup va avoir une incidence sur le pouvoir d'achat. Donc une estimation plus élevée de l'inflation conduit à des hausses plus élevées des valeurs indexées, les retraites, les minima sociaux, les prestations sociales, et certains acteurs économiques peuvent avoir des intérêts économiques à tirer la mesure de l'inflation vers le haut, vers le bas, comme le montre toute l'histoire de la statistique. Je n'aurai pas le temps de l'évoquer, mais je vous invite à regarder un encadré que j'ai commis dans l'ouvrage sur le rapport Boskin, qui montre à quel point Boskin avait deux idées en tête, et c'est d'ailleurs comme ça que Greenspan lui a commandé son rapport. Premièrement, réduire les déficits publics américains. Donc faites le lien entre les deux, il y a un lien entre les deux. Et deuxièmement, énoncer que l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'inflation, était trop élevé aux États-Unis, c'était son obsession. Mais ce serait trop simple de se limiter à cette question de la redistribution. Il y a aussi, de mon point de vue, et c'est en ça où je rejoins amplement les travaux séminaux et conduits par Dominique Méda, il y a vraiment une logique de représentation des richesses produites, de la qualité, de ce qui compte. Donc, qui compte les changements dans les produits? Qui compte les changements dans la qualité? Qui dit cette qualité? Qui l'énonce? Qui dit que lorsqu'il y a une variation dans la sauce tomate, c'est un enrichissement? Quels critères de cette qualité sont-ils pris en compte? Ici, là encore, certains acteurs peuvent avoir leur propre représentation de ce qu'une meilleure qualité veut dire. Par exemple, lors de mes entretiens, une chose vraiment qui m'a frappée, c'est le tropisme technophile des administrateurs de l'INSEE qui sont tous passés par X, ce sont des XNSAE, pour la plupart, disons la plupart des administrateurs, souvent quand ils sont des hommes en tout cas. Et ce tropisme technophile passe inévitablement par les exemples qu'ils fournissent pour me raconter l'évolution de la qualité, l'évolution de leur prise en compte. C'est inévitablement des questions qui relèvent du numérique. Inévitablement des questions qui relèvent du numérique. Mais jamais des questions qui relèvent du caractère relationnel des activités de service qui sont menées. Mais jamais, jamais. Jamais non plus des questions qui relèvent de l'écologie ou de la durabilité des biens, sauf lorsque j'amène cette question dans le débat. Et là, souvent on me dit, bah, franchement, avoir des tomates toute l'année, c'est une avancée majeure. Mais si vous lisez le rapport Boskin, 30 ans plus tard, on voit que le régime des idées, il compte dans le débat. Ça nous fait sourire aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a 10-15 ans, ça ne nous aurait pas fait sourire. Il y a aussi un régime d'idées qui change dans le temps. Donc, tout ça pour vous dire que toute l'histoire internationale de l'inflation, elle tend, de mon point de vue, c'est ce que je montre dans mon ouvrage, et c'est en fond la thèse que je défends, à faire valoir, du côté des experts et du côté des politiques, l'idée que l'inflation était peut-être surestimée, c'était le cas dans les années 50, et aujourd'hui que l'inflation, elle est très certainement surestimée, qui renvoie à l'enjeu de la redistribution, mais aussi à des questions de manière par laquelle on ficelle, la question des représentations de la richesse. Alors, on me demande de boucler, c'est bien, je vais boucler, je vais conclure. Je conclue en 5 points, quand même, si tu me laisses juste le temps de conclure, en 5 points sur ce qui me semble le plus important d'un point de vue socio-économique ou d'économie politique, pourrions-nous dire. Premier point, les controverses ont toujours existé et elles engagent, alors comme je viens de le dire, là ça paraît comme vraiment j'enfonce le clou, elles engagent à la fois un enjeu redistributif, mais aussi un enjeu de représentation des richesses, un enjeu de comment on énonce la qualité, et donc des richesses de ce qui compte et de qui les compte. Il ne s'agit pas, ça n'a pas la même chose de faire énoncer la qualité par des producteurs eux-mêmes, qui évidemment ne vont jamais mettre en avant, sauf s'ils sont obligés de le faire, l'obsolescence programmée, de même qu'ils ne mettront pas en avant une dégradation de la qualité des tomates. Deuxième résultat, sur la longue période, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que les protagonistes de ces controverses ont drastiquement changé. Elles étaient très ouvertes, et c'était des disputes très frontales quand on relit la littérature entre le gouvernement et les organisations syndicales, et elles deviennent beaucoup plus feutrées, beaucoup plus fermées, parfois n'engageant que des experts entre eux, ou parfois engageant de nouveaux acteurs comme les associations ou certaines individualités, des économistes parfois alternatifs. En d'autres termes, peut-être que, ça va mettre dans le débat, mais que les syndicats se sont retirés depuis les années 80 de l'ensemble de ces contrats. Et ils ont donné la place à d'autres types d'acteurs. Troisième résultat, ce qui est très étonnant, c'est que lorsque j'ai fait mes entretiens auprès des statisticiens de l'INSEE, la plupart d'entre eux, vraiment quand je dis la plupart, c'est la plupart d'entre eux, pour ne pas dire la totalité, commencent en me disant non mais sur l'indice des prix, il n'y a absolument aucune controverse. En fait, les interprétations me semblent en tout cas n'avoir jamais été aussi vives du fait des mutations du capitalisme et des enjeux qui les accompagnent. La production de services, la production d'informations, de numérique, l'intégration de la gratuité, les enjeux de l'écologie et des inégalités. Alors toute l'idée sur le fait que l'INSEE énonce le fait qu'il pourrait ne pas y avoir de controverse, ça peut être favorisé, c'est une hypothèse, par le fait qu'il y a quand même pas mal de citadelles techniques entre les citoyens et l'INSEE dans les méthodes, les techniques, le langage qui sont érigés donc entre la société civile et la statistique publique. Et c'est peut-être une manière de dépolitiser un indicateur qui, de mon point de vue, est intrinsèquement politique dans son interprétation. Deuxième raison sur le fait qu'il n'y ait pas de controverse, c'est qu'il y a sans doute un manque de pluralisme au sein même de l'institution qui porte la production statistique publique. Voilà, entre une période où il y avait un énorme pluralisme au sein de l'INSEE qui n'était pas simplement caractérisé par le marxisme, mais aussi par tous les tenants aujourd'hui de l'école des conventions qui vont de Orléans à Robert Salé, à aujourd'hui sans doute pour l'essentiel des microéconomistes théoriciens du consommateur, eh bien il y a quelque chose qui se passe là et qui peut-être empêche un débat peut-être serein autour des alternatives possibles sur la manière de compter. Et puis évidemment, il y a une délégitimité de l'État. Il y a de vraies pressions à la réduction des dépenses publiques qui jouent à la fois sur les moyens et sur peut-être les dévaluations de la mesure de l'indice. Comme le disent Gaillon et Lemoine, je les cite, la transformation des méthodes de compte va jusqu'à produire un grand renversement, faisant de l'État non plus la chose mesurante et planificatrice de l'économie, mais bien la chose mesurée par les acteurs privés de l'économie. Dernier point, parce que je voudrais vraiment conclure plus politiquement que techniquement, mais évidemment si j'ai perdu ma feuille, ça ne va pas. Elle est ici. Je termine vraiment en disant que dans les économies de qualité au sens où de plus en plus sa mesure est en jeu, s'intéresser à qui l'énonce est important. Je disais dire de producteur, dire d'expert, dire de consommateur. Et donc il y a, et c'est mon dernier point, une urgence vraiment démocratique à pluraliser les points de vue parce que les indicateurs qui s'appuient sur l'inflation deviennent ensuite des cadres représentatifs et interprétatif du monde. Et c'est le cas de l'inflation, comme de la production, comme de la productivité et comme de tous les indicateurs macroéconomiques à partir desquels ensuite les économistes et les politiques et les médias parfois nous font des gymnastiques intellectuelles majeures. Merci beaucoup.
Merci, merci Florence. Une petite question avant de donner la parole à tous les discutants. Tu signales dans le livre que l'une des raisons qui ont poussé l'État en France à construire un indice des prix, c'était pour répondre à la colère des ménagères qui se plaignaient de perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Et la chose qui frappe, l'une des choses qui frappe à la lecture de ton livre, c'est l'inflation, c'est toujours mal. Quel que soit l'acteur, il faut toujours chercher à minimiser l'inflation. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ?
Alors, déjà sur la première affirmation, j'essaye d'être un petit peu plus nuancée parce que je dis qu'il y a deux écoles historiques en fait. Il y a une école historique qui laisse entendre que ce serait lié à répondre à la colère de la ménagère, ça c'est l'école un peu Béatrice Touchelet, mais de l'autre côté on a aussi des historiens plutôt internes à l'INSEE d'ailleurs qui eux mettent en avant le fait qu'en fait on cherchait un proxy de l'activité industrielle et que c'était plus facile de capter l'activité industrielle par les prix que par cela. Cela étant dit, et je viens à ta deuxième remarque, c'est très intéressant parce que en fait, quand on lit notamment sur la période du passage à l'euro, la question de ce que les médias, les politiques pensent des prix, ils sont tout à la fois inquiets lorsque l'inflation monte trop. Mais ils sont aussi inquiets lorsqu'ils baissent trop. Il y a quand même toujours cette tension. Donc on ne peut pas dire qu'on serait dans une univocité comme on l'est sur la croissance économique, où il faut à tout prix aller chercher la croissance économique, fût-elle avec les dents. Avec l'inflation, on n'est plus nuancé. Mais il va de soi quand même que la plupart, en tout cas, de mes interlocuteurs de l'INSEE, donc il y a presque plus de keynésiens, ne voient plutôt dans l'inflation quelque chose qui n'est pas nécessairement favorable. Quoi, voilà.